て。Ce qui frappait chez lui, c'était la douceur de son regard, puis très vite, sa bienveillance. Modeste, jamais un mot plus haut que l'autre, il s'était mis en posture de discrétion. Quand on lui faisait remarquer ce que bon nombre de cinéastes français lui devaient, il se mettait en colère. Pierre Chevalier vient de disparaître, et ce soir, nous rendons hommage à l'une des personnalités les plus importantes du cinéma français, même s'il n'a jamais souhaité être en lumière. La noblesse de la fiction à la télévision, c'est lui. La découverte d'une jeune génération de réalisatrices et de réalisateurs, c'est lui. L'invention de la série à la télévision, c'est lui. Ce soir donc, Pierre Chevalier, le passeur. Mais avant d'entendre la voix de Pierre Chevalier, nous allons, comme chaque soir, commencer en musique avec un clin d'œil. La série qu'il a produite pour Arte s'intitulait « Tous les garçons et les filles ». Honneur à Françoise Hardy.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Oh, quand donc pour moi brillera le comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Dans quelles circonstances et pour quelles raisons, Pierre Chevalier, avez-vous fugué de chez vos parents pour aller à Saint-Tropez et quelle éducation avez-vous reçue ?
L'éducation à l'époque n'était pas tellement l'affaire des parents, c'était plutôt l'affaire des éducateurs, en l'occurrence des religieux. Et donc j'ai passé toute une partie de mon enfance et de mon adolescence dans des collèges, Saint-Joseph, Saint-Thomas d'Aquin, Sainte-Marie, à Lyon. C'était strict, quoi. Et après, je me suis donc retrouvé à la fac, et là, j'ai eu une envie de liberté extraordinaire, de casser les murs, quoi, de faire le mur, ce qu'on ne pouvait pas faire en pension. Et donc, j'avais des amis, et l'un d'eux m'a proposé d'aller à Saint-Tropez, ce qui était mon rêve, quoi, absolu. Saint-Tropez, à l'époque, c'était François Sagan, Brigitte Bardot, pour moi, c'était, voilà, c'était à la fois le bout du monde et puis le vrai monde, quoi. Et donc, je suis allé à Saint-Tropez, dans la maison de Tony Richardson, qui était vacante à l'époque. Et j'ai vécu un peu, je suis allé dans les bars, dans les boîtes, sur les plages, et c'était le rêve.
Et là, les religieux vous ont pas poursuivi ?
Non.
Ni les parents ?
Les parents, si. Les parents, si. Mon père était pas très content. Hein. Mais il a été...
Et puis la majorité, c'était 21 ans.
Exactement. Donc, j'étais mineur. Donc, et une dame qui m'avait vu partir, eh bien, m'a vendu, quoi. Elle a dit, oh là là, il est parti avec Jean-François Lefort. C'est terrible. Il est parti pieds nus, en plus. Donc, j'ai été tracé. Mais mon père a eu ce réflexe, il dit, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien, tu perds ton temps, on te voit plus, tu passes tes nuits à lire, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit tout simplement, je voudrais aller à Paris, je voudrais faire mes études à Paris. Et il m'a dit oui. Dans des conditions aussi assez strictes, je vivais dans une chambre d'un des amis de mon père. Et voilà, j'étais libre, j'allais à la Sorbonne, j'écoutais des professeurs comme Jean Kelevitch, comme Paulin. C'était fantastique, comme Revaux d'Allonne, voilà. Et je lisais beaucoup, j'allais beaucoup au cinéma, j'essayais d'aller au théâtre. Enfin, c'était vraiment la vraie vie pour moi.
Et puis un jour, vous avez répondu à une petite annonce et vous avez commencé à travailler comme babysitter chez un homme qui avait des enfants et dont nous allons entendre la voix. Nous avons choisi dans l'abécédaire de Gilles Deleuze un entretien, donc l'entretien avec Claire Parnet. On a choisi la lettre A comme amitié.
L'amitié, pourquoi on est ami de quelqu'un? Pour moi, c'est une affaire de perception. Voilà aussi. C'est le fait de... C'est pas qu'on ait des idées communes, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose de commun avec quelqu'un? C'est, je dis, des banalités, là. On se comprend sans avoir besoin de s'expliquer. C'est pas des à partir d'idées communes, mais on a un langage commun, ou un pré-langage commun. Il y a des gens, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Hein. Même s'ils disent des choses simples, même s'ils me disent « passez-moi le sel », il faut que je me dise « mais qu'est-ce qu'ils me disent là ?» Au contraire, il y en a, ils me parlent d'un sujet extrêmement abstrait et je ne suis pas d'accord avec eux, je comprends tout. Je comprends tout ce qu'ils me disent. Bon, ça veut dire que j'ai quelque chose à leur dire et ils ont quelque chose à me dire. Hein. Et ce n'est pas du tout la communauté des idées. Là, il y a un mystère. Alors, oui, c'est vrai que là, il y a un grand mystère, ce fait d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un, s'entendre si bien, sans idée commune, sans qu'on puisse ramener ça. J'ai une hypothèse, c'est que chacun de nous est apte à saisir un certain type, jamais personne ne saisit tous les types à la fois, un certain type de charme, il y a une perception du charme. Et qu'est-ce que j'appelle le charme? Là, c'est pas du tout du truc où je veux ramener de l'homosexualité dans l'amitié, là, pas du tout. Mais un geste de quelqu'un, une pensée de quelqu'un, même si elle est avant qu'elle soit signifiante, hein, ou un geste de quelqu'un, une pudeur de quelqu'un. C'est des sources de charme, mais alors qu'ils vont tellement jusqu'à la vie, jusqu'à des racines vitales, que c'est comme ça qu'on devient ami de quelqu'un. Il y a des phrases, mais insignifiantes, qui ont un tel charme, qui témoignent d'une telle délicatesse que tu dis immédiatement, celui-là, il est à moi, pas au sens de propriété. Il est mien et j'espère être sien. À ce moment-là, bon, l'amitié peut naître. Alors, donc, il y a bien une question de perception. Hein. percevoir quelque chose qui vous convient ou qui vous apprend, qui vous ouvre, qui vous révèle quelque chose. Et quelqu'un qui émet des signes, on les reçoit pas, on les... toutes les amitiés, je crois, sont à ces bases-là, être sensibles aux signes émis par quelqu'un.
Nous venons d'entendre la voix de Gilles Deleuze, donc, qui parle de l'amitié. Est-ce que vous êtes devenu ami de Deleuze? Comment ça s'est passé par étapes?
Oui, c'est émouvant d'écouter Gilles. C'est très émouvant. Et quand j'avais 20 ans, en effet, je savais pas quoi faire. J'étais désœuvré. Je faisais des études, je les ai ratées. J'étais incapable de passer un concours. Donc, je me suis arrêté pour travailler, parce qu'il fallait quand même travailler à l'âge de 23 ans. J'ai vendu des lampes, j'ai été rédacteur, correcteur.
Garçon de course.
Garçon de course, en effet, chez Gallimard. Ça, c'était formidable parce que j'ai pu lire beaucoup de livres et j'étais très copain avec les dames du service commercial et je me suis constitué une bibliothèque. Et je gardais en effet des enfants quand on me le demandait. C'était assez nouveau à l'époque parce que c'était après 68. D'habitude, c'était les babysitters femmes qui faisaient ça, les jeunes filles au père. Et puis les jeunes hommes aussi étaient employés par des mères pour garder les enfants la plupart du temps le soir. Et j'avais rencontré Gilles et Fanny Deleuze à la campagne chez un ami commun, François Michel, et j'avais beaucoup sympathisé avec Fanny et les enfants. Et Fanny m'a dit, écoutez, vous entendez vraiment bien avec les enfants, est-ce que vous pouvez les garder? Et je les ai gardés, et puis de plus en plus souvent. Et puis, à un moment, Gilles m'a dit, écoute, tu connais l'appartement, tu commences à nous connaître, tu connais très bien les enfants, ils t'aiment bien. J'avais des problèmes de santé, je pouvais plus monter des escaliers. Il m'a dit, est-ce que tu veux habiter chez nous? Il y a une pièce au rez-de-chaussée. Avec une entrée indépendante. J'ai dit oui, bien sûr. Et nous avons vécu comme ça ensemble de 73 à 83. Dix ans, oui. Un peu comme une meute. Chacun avançait, regardait un petit peu ce que faisait l'autre. L'appartement était divisé en deux étages. Au rez-de-chaussée, il y avait ma chambre et le bureau de Gilles. Et puis, à l'étage, les chambres des enfants, et etc. Et c'est dans ma chambre, d'ailleurs, qu'a été tournée l'ABCDR. Mais j'étais déjà parti de la rue de Bizerte. Et on a été heureux. Mais c'est des années de grâce. C'était formidable. C'était une maison ouverte à tous les vents. Il y avait les collègues ou les élèves de Gilles. François Châtelet venait presque tous les dimanches avec Noël. Félix Guattari venait bien sûr le mercredi pour travailler au Mille Plateaux, par exemple, à la rédaction des Mille Plateaux, qui était un énorme ouvrage. Il y avait Karl Flinker, Agnès B, Gérard Fromanger, Roland Barthes qui venait là, qui était triste, qui pleurait parfois, qui était adorable d'une bienveillance extraordinaire. Et Foucault, bien sûr, aussi. Foucault avec Daniel Defer. Foucault était étincelant. On a ri avec Foucault. Il était drôle, drôle. Il avait une ironie. Il y avait Boulez aussi. Enfin, voilà, c'était une maison. Il y avait des fous. Il y avait de jeunes écrivains, de jeunes philosophes. Ça a vécu tout le temps, et ça a été vraiment un très grand moment de joie. On n'a jamais eu un mot entre Gilles, Fanny et moi. Avec les enfants, si tant, parce qu'ils étaient très turbulents. Donc, Émilie avait 7 ans et Julien 11 ans. Et donc, on a élevé aussi ensemble les enfants, quoi. Et je garde un souvenir vraiment extraordinaire. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai appris à lire. Je lisais les manuscrits de Gilles. On parlait, mais on parlait pas tellement. On parlait peu. On parlait des affaires courantes, quoi. Et puis, voilà. Et la vie se déroulait comme ça. Gilles faisait ses cours à Vincennes. Fanny travaillait chez Agnès B. Et voilà. Et moi, je suis en au ministère de la Culture, c'était pour moi la vraie vie.
Et qu'avez-vous appris de la philosophie de Gilles Deleuze? Parce que progressivement, des enfants dont vous aviez la charge, vous êtes passé aussi à une sorte de rôle de secrétaire de Deleuze.
Un petit peu, oui, de secrétaire, le terme est tout à fait exact. La philosophie, non. J'étais pas capable. J'ai fait des études de philo par erreur. J'aurais dû faire des études de lettres. Je pense que c'était mieux. Mais c'est par orgueil que j'ai fait de la philosophie. Ça me semblait tellement extraordinaire. J'ai retenu surtout de cette période la vie de Gilles. Et c'était une vie vraiment vraiment remarquable. Jamais de plainte. Hein. Toujours aussi une certaine hauteur de point de vue. Et puis, une véritable, voilà, quelque chose de très grand, quoi. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, jusqu'à la mort, quoi.
Oui, puisqu'on sait qu'il va mettre fin à ses jours sans laisser d'explication.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui...
Parce qu'il souffrait trop.
Oui, il était sous respiration artificielle 12 heures par jour depuis 4 ans. Il ne pouvait pas aller dans l'appartement sans sa bouteille d'oxygène. Et je crois que ça a été un acte de générosité pour ses proches aussi. Et il l'a fait plutôt dans une sorte aussi de bienveillance, quoi. Et puis d'autorité, voilà. De dire, il y a un moment, j'en peux plus, c'est plus la peine de faire supporter tout cela aux autres, je disparais, et c'est pas plus grave que ça, c'est sans doute pas le moment le plus important de ma vie. Ce que j'ai fait dans ma vie, ou ce que j'ai pu écrire, c'est peut-être ça qui compte, mais la mort, pas du tout.
Et vous, à partir de quel moment vous avez pris votre envol de chez les Deleuze, et à partir de quel instant vous avez choisi le cinéma, qui va être votre discipline principielle?
Oui, tout à fait. À partir des années 83-85, c'est-à-dire à partir des années où je suis entré au Centre National de la Cinématographie. Gilles écrivait à ce moment-là « Image mouvement, image temps », les deux tomes. Et cette proposition d'aller au Centre National du Cinéma a été aussi un hasard. Tout simplement, je connaissais le secrétaire général, j'étais à ce moment-là chef de cabinet au Centre Pompidou, et Alain Auclair, donc ce secrétaire général, avec Pierre Viau, qui était le directeur du Centre, m'ont dit « Écoute, venez créer un service d'aide sélective à la production qui va regrouper l'avant-sur-recette, qui dépendait à l'époque de l'Office de création cinématographique, toutes les aides au court-métrage, et puis de nouvelles aides engagées par Jacques Lang, car Jacques Lang a vraiment beaucoup fait pour le cinéma. Et donc, j'ai géré pendant 8 ans, 7 à 8 commissions d'aides sélectives, et là, le peu que je sais de l'image en mouvement du cinéma, je l'ai appris dans cet établissement, qui est vraiment extraordinaire.
Donc vous aviez un poste d'observation qui vous permettait de saisir tous les nouveaux talents.
Exactement.
Et de leur donner leur chance.
Exactement.
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs.
C'était un poste, non pas de surveillance, j'espère, mais un poste où en effet je pouvais beaucoup écouter. J'ai énormément écouté et des gens extraordinaires. Jacques Perrin, Christian Bourgois, Isabelle Adjani, Françoise Giroux, André Téchiné. C'était formidable. J'ai beaucoup lu de scénarios, à peu près 250 par an. J'ai visionné peut-être aussi autant de longs métrages par an. J'ai visionné beaucoup de courts métrages, 300 par an. Et c'est là où on apprend, parce que dans le court métrage, il y a très souvent une idée, juste une idée. Peut-être pas une idée juste, mais juste une idée. Et ça, c'est exceptionnel. Et alors là, on voit ce qui va apparaître. Par exemple, les courts-métrages de Luc Besson ou de Mathieu Kassovitz dans un autre genre étaient révélateurs tout de même de vrais talents de cinéaste. Et puis bien d'autres, quoi. Et j'ai connu des cinéastes, des producteurs, je n'ai pas du tout. Et il y avait des producteurs extraordinaires. Il y avait encore Pierre Bonneberger, Alexandre Mnouchkine, Anatole Dauman. C'était formidable de les écouter. On apprenait tout avec eux. Et le centre, vraiment, a été un lieu privilégié d'observation, d'écoute, d'apprentissage. Et en effet, j'ai pu voir comment émergeaient les talents. Et à cette époque-là, c'était extraordinaire, quoi. Vraiment, la fréquentation en salle était très forte. Et il y avait d'une part la nouvelle vague et d'autre part le cinéma commercial. Et la nouvelle vague, évidemment, avait des descendants.
Et à partir de quel moment vous décidez qu'un jeune cinéaste a des possibilités si fortes artistiquement qu'il est opportun de lui donner les moyens de continuer d'un court à faire un long?
Alors ça, c'est assez indéfinissable. Il y a peut-être une part d'instinct.
Parce que vous êtes l'une des personnes qui a donné le plus de chance aux cinéastes d'aujourd'hui. Et donc, à partir de quels critères vous leur permettez d'exister?
C'est c'est essayer dans l'indiscernable, parce que un scénario, des courts-métrages, un moyen-métrage ou même un premier film, il y a une part comme ça, quand même, c'est un peu informe même parfois. Et simplement, on peut déceler un désir très fort. Voilà, c'est le désir, je crois, qui déclenche tout. Et un scénario, même s'il est mal ficelé, s'il est pas très technique, etc., on sent une puissance en devenir. On sent une originalité, quelque chose de parfaitement individuel. On passe à côté aussi beaucoup. Hein. On se trompe 2 fois sur 3. J'estime que je me suis trompé au moins 2 fois sur 3. Mais c'est passionnant et en même temps, se tromper, c'est très grave. Et puis, c'est un peu moins grave parce que il faut aussi qu'il y ait des réalisateurs, des réalisatrices qui ont quelque chose, mais qui ne sont pas forcément exceptionnels dans toute leur cinématographie. Il faut un terreau, il faut une quantité pour que la qualité surgisse.
Nous allons écouter un extrait du discours de Pascal Ferrand lors de la 32e cérémonie des Césars du 25 février 2007, suivi d'un extrait d'un de ses films magnifiques, Lady Chatterley.
Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce qu'on appelait les films du milieu, justement parce qu'ils n'étaient ni très riches ni très pauvres, était une sorte de marque de fabrique de ce que le cinéma français produisait de meilleur. Leurs auteurs, de Renoir à François Truffaut, de Jacques Becker à Alain Resnais, avaient, bon an mal an, les moyens financiers de leurs ambitions. En assimilant les films à vocation artistique aux films pauvres et les films de divertissement aux films riches, le système actuel trahit l'héritage des plus grands cinéastes français et leur volonté acharnée de ne jamais dissocier création cinématographique, point de vue personnel et adresse au plus grand nombre.
Vous arrivez tard.
Mmh.
Vous vouliez entrer ?
Juste pour fermer.
Vous êtes fâché à cause d'hier ?
Pas du tout. C'est pas plutôt vous ?
Moi ? Pas du tout.
Vous avez pas l'impression de vous être, comme qui dirait, abaissé, en faisant ça avec un homme comme moi ?
Abaissé ? Pourquoi vous trouvez que je me suis abaissé ?
Avec un domestique de votre mari, quoi.
Vous n'êtes pas domestique ? Vous êtes garde-chasse. Mais peut-être que c'est vous qui avez l'impression d'avoir perdu quelque chose.
Ne pensez pas ça, madame. C'est quand même pas simple de vous appeler madame et puis après...
Mais j'ai aucune envie que vous m'appeliez madame. J'aime pas ça du tout, en fait. Et si je vous plais...
Et moi, je vous plais ?
Oui.
Ouais. Il y a des choses qui arrivent. Eh bien alors, à quoi ça sert de parler ?
Nous venons d'entendre un extrait de ce film magnifique de Pascal Ferrand, Lady Chatterley, précédé donc d'un discours qui a marqué l'histoire de l'appréhension du cinéma français actuel, tel qu'il existe, je crois, encore aujourd'hui en 2014, cette opposition que vous décriviez tout à l'heure en début d'émission, Pierre Chevalier, entre le cinéma d'art et d'essai opposé au cinéma de divertissement. Il y a encore des polémiques sur le financement du cinéma. Vous qui avez longtemps travaillé au CNC, puis qui avez dirigé l'unité de fiction Arte Cinéma pendant ensuite très longtemps, donnant des chances à des films comme celui-ci de pouvoir exister. Est-ce que vous pensez que cette opposition perdure encore aujourd'hui ?
Peut-être moins, je trouve. En tous les cas, dans le cinéma français. Peut-être encore pas mal, même beaucoup, dans le cinéma américain. Dans le cinéma français, c'est vrai que, paradoxalement, les films à gros budget, et comme on dit, avec casting, se montent encore plus facilement que les films du milieu, comme dit Pascal Ferrand, qui sont autour d'un budget de 3-4 millions d'euros. Parce que là, en effet, le casting est plus rare, la démarche aussi est plus exigeante, souvent le langage cinématographique est plus affirmé, il n'y a pas la volonté comme ça d'une réception consensuelle, il y a vraiment une affirmation de l'originalité, une recherche. Alors ça reste encore difficile. Mais bon, c'est pas catastrophique. Beaucoup de gens trouvent que le cinéma est en crise. De toute façon, il est en crise perpétuelle, comme toutes les formes d'expression. Ça, c'est... Mais ça me semble moins difficile maintenant de faire du cinéma, sauf les premiers films, là, et les deuxièmes films d'ailleurs, qu'il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, il me semble moins difficile d'affirmer une démarche originale auprès de producteurs, parce qu'il y a eu aussi de nouveaux producteurs. Et là, les nouveaux producteurs ont fait un travail formidable, et de nouveaux distributeurs. Et ils n'ont pas hésité à s'engager sur des films à risque qui risquaient de ne pas rencontrer un maximum de public. Donc, c'est vrai qu'il n'y a jamais assez d'argent pour le cinéma, parce que le cinéma coûte très très cher. Quand on voit, par exemple, à côté d'un livre ou d'une émission de radio, où on peut faire de l'événement avec très peu de choses, quoi. Le cinéma, même s'il y a pas beaucoup de choses à l'écran, à l'image, il faut beaucoup d'argent, parce que il y a un plateau, une équipe d'un minimum de 20-30 personnes, il y a de la post-production qui dure des semaines, un montage qui peut durer facilement 6-8 semaines. C'est très lourd, le cinéma, quoi. Et donc, en effet, l'argent va évidemment à l'argent, c'est-à-dire aux films vraiment qui visent le public, mais tout de même, on peut encore produire et réaliser des films films absolument originaux, que ce soit avec des groupes ou avec des sociétés de production indépendantes. Le cas de Kechiche est exemplaire. C'est un film d'un certain budget, mais très original et qui a trouvé quand même...
Vous voulez parler du premier, de Abdelatif Kechiche,
Abdelatif Kechiche, oui, exactement. Voilà, il a pu faire ce film très difficilement, certainement. La faute à Voltaire aussi. Après, ça a été plus facile. Mais voilà, il a pu exister.
Il a pu exister jusqu'au moment où il sera récompensé, donc au dernier festival de Cannes au printemps
voilà,
de l'année
exactement,
dernière.
Exactement.
Et donc vous pensez qu'il y a un parcours comme ça, un peu du combattant dans la cinématographie française, c'est-à-dire que il faut faire ses preuves et par étapes, petit à petit, on conquiert un public de plus en plus large. On ne surgit pas comme ça.
Non, on ne surgit pas comme ça. Je crois
comme
que...
une sorte de fusée dans le ciel artistique.
On peut, mais ça n'a pas souvent de très bons résultats. On peut être une fusée et puis la fusée, c'est qu'un feu d'artifice et puis après, il n'y a plus rien. Cela dit, il y a des
cinéastes qui disparaissent aussi. Par exemple, un de ceux que vous avez beaucoup soutenu, Eric Zonka,
oui.
On ne voit plus du tout son travail.
Oui, c'est vrai. Il tourne, je crois, en ce moment. Il tourne, mais c'est vrai qu'on avait fait le Petit Voleur dans la collection Gauche-Droite et après son succès à Cannes, c'est vrai qu'il a eu du mal à réaliser. Alors je crois que la carrière d'un cinéma, c'est vraiment très très difficile, quoi. C'est terrible, d'un cinéaste, d'un producteur, d'un acteur aussi, c'est des carrières en zigzag, avec des hauts et des bas, avec des syndromes dépressifs et des moments de bonheur absolu. C'est toujours, il faut toujours être combatif. Toujours, 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 jusqu'à la fin. Et ça, c'est un peu injuste d'ailleurs, parce que... Enfin, il faut réaliser que Bresson a dû demander l'avance sur recette pour Genèse, son grand projet de film, et qu'il ne l'a pas eu. Donc, un cinéaste doit toujours franchir des obstacles, des concours. C'est vraiment un métier très difficile.
Nous allons écouter un extrait d'un film d'André Téchiné que vous avez coproduit, qui s'intitule « Les roseaux sauvages » et qui reste dans notre mémoire.
Je vous rappelle que le sujet était commenter librement un poème que vous avez particulièrement aimé. J'insiste sur le « vous », car il s'agissait bien du goût de chacun. Et non pas, comme vous l'avez tous fait, de reprendre bêtement mes propres explications de texte, d'une façon impersonnelle mais scolaire. En conséquence, vous avez tous la moyenne, ce qui n'est pas très glorieux. Il y a cependant deux exceptions. Commençons par la copie de Forestier. Pour se distinguer, Forestier a choisi un poème de Rimbaud, poème difficile évidemment pour bien montrer qu'il plane dans les hautes sphères de l'hermétisme. C'était un peu maniéré, très cultivé comme toujours. Vous êtes trop complaisant, Forestier, c'est dommage. Je vous ai mis 14.
14 ?
Vous estimez lésé, Forestier ?
Bah ouais, un peu quand même.
Ça ne m'étonne pas, vous avez une très grande estime pour vous-même. Dans votre jargon élitiste, on appelle ça le risque d'infatuation. Maintenant, nous allons passer au nouveau. Mariani Henri. Étrange coïncidence, lui aussi a choisi Rimbaud. Mais avec vous, au moins, nous sommes loin des obscurités de Forestier. Votre travail est clair. Très clair. Et ce que vous racontez est complètement faux. Vous parlez des bourgeois de Charleville que Rimbaud détestait et vous les comparez aux Français de métropole qui sont, voilà, indifférents au sort des Français d'Algérie qui se battent pour défendre leurs terres, leur sang, leur dignité. Je veux bien que la France soit bourgeoise. Je veux bien que les pieds noirs soient déchirés, mais qu'est-ce que vous faites du peuple algérien, Mariani ? N'existe pas pour vous ?
On leur a tout donné. Sans nous, ils crèveraient de faim.
Évidemment, on aurait toujours les esclaves, ça s'appelle l'exploitation. Mais je ne veux pas transformer un cours de littérature en débat politique, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas mis de note.
Je suis pas d'accord, il mérite une note comme tout le monde. Peut-être que les profs se mouillent un peu plus. Bon, j'aurais combien au bac avec ça?
C'était pas sûr qu'il vous tombait.
Mais si je tombe sur vous?
Moi, je serais impitoyable. Je vous mettrais zéro.
Et voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous remercie.
Nous venons d'entendre un extrait du film de Téchiné, Les Roseaux Sauvages, qui a obtenu le César du meilleur film en 1995. Qui n'a pas pris une ride. Téchiné tourne toujours. On attend le prochain film d'Alain René. Est-ce que à cette période-là, ce qu'il faut expliquer, Pierre Chevalier, c'est que vous avez quitté le CNC pour rejoindre Arte, vous avez dirigé l'unité fiction, vous avez inventé des concepts permettant à des cinéastes, comme par exemple Téchiné, de pouvoir faire des films. Était-ce à dire qu'à cette période-là, il n'avait pas d'autres possibilités dans le système cinématographique tel qu'il existe aujourd'hui en France de pouvoir exister artistiquement?
Oui, je crois qu'à ce moment-là, les cinéastes comme Téchiné, comme Doyon, comme Benoît Jacquot, par exemple, avaient vraiment des difficultés pour tourner. Ils avaient fait des films qui avaient été remarqués, qui étaient remarquables, mais les producteurs s'intéressaient pas tellement à eux. Voilà, parce que le public paraissait limité quant à leur cinéma. Alors c'est vrai que cette petite unité fiction, on était une douzaine. Je se présentais comme un espace, voilà, comme un lieu, comme une île un peu, où les réalisateurs pouvaient venir, pouvaient repartir. Et ça, j'ai toujours beaucoup tenu à ce que mon bureau, tout simplement, soit un lieu de passage qui permette à des réalisateurs de travailler. L'objectif, c'était de proposer un lieu de travail. Et ça, c'était
un lieu d'écoute aussi.
Un lieu d'écoute, un lieu d'échange, un lieu de proposition, exactement.
Et mais vous donniez les moyens aussi à des artistes de pouvoir se remettre dans le flux de la vie alors qu'ils en étaient écartés.
Oui.
C'est ça qui était extraordinaire.
Oui, d'une certaine façon.
Et d'être reconnu de nouveau comme un second baptême.
Oui, d'une certaine façon. En effet, le deal était très simple. C'était Arte n'était pas une chaîne riche. Les moyens étaient en matière de fiction tout de même assez limités. Donc, le deal avec les réalisateurs et les producteurs, c'était peu d'argent, mais beaucoup de liberté. Et pour essayer tout de même d'affirmer une logique, on a travaillé surtout par le dispositif des collections. Moi, j'ai toujours été, je garde ça peut-être de la vie d'étudiant, il y avait comme ça, les marxistes disaient, il faut formuler des énoncés collectifs. J'avais jamais bien compris ce que ça voulait dire, mais je me suis toujours dit, le collectif, c'est vraiment important. Et la télévision, c'est un métier aussi collectif. Et il faut que le collectif se rencontre. Donc, autour d'idées suffisamment générales ou universelles plutôt, pour rassembler des sensibilités très différentes, comme Tous les garçons et les filles de leur âge, où les réalisateurs et réalisatrices racontaient leur adolescence, comme Gauche-Droite, où une notion de gauche et de droite devait exister, comme les années lycées. Autour de ces collections, beaucoup de réalisateurs, les réalisateurs sont venus, ont travaillé, et ont travaillé dans une économie vraiment drastique. C'était un peu le western, les tournages. C'était pour un 90 minutes, 23 journées de tournage, alors qu'au cinéma, c'est 8 semaines.
Vous réinventiez les règles de la nouvelle vague, au fond.
Oui, peut-être d'une certaine façon. Simplement, si vous voulez, la nouvelle vague était aussi un dogme, enfin que plus tard a repris d'ailleurs Lars von Trier. C'était un peu une réforme du cinéma. Et là, c'était plutôt une contre-réforme, enfin sans les excès, j'espère. C'est-à-dire que ça allait dans tous les sens, quoi. Alors il y avait des réalisateurs qui travaillaient avec une caméra à l'épaule, d'autres avec de longs plans séquences. Avec Doyon, on s'est bien planté. D'ailleurs, une série, on voulait faire un sitcom culturel sur Germaine de Staël et Benjamin Constant.
Mais j'ai vu ce film qui était magnifique.
12 fois
qui
26
durait
minutes.
Des heures.
Oui, oui, et le dernier plan séquence fait 24 minutes. Et donc, on a tenté plein de choses. Ça allait vraiment dans tous les sens. Donc, si vous voulez, c'était après la nouvelle vague. Ces réalisateurs, évidemment, tenaient compte des apports considérable de Godard, surtout, bien sûr, de Truffaut, de Chabrol, de tous ceux qui avaient fait la nouvelle vague, mais en conquérant de nouveaux espaces, une nouvelle liberté, et en investissant à peu près le monde, quoi, par le cinéma, quoi. Parce que, aussi, grâce à Arte, qui était une chaîne transnationale, une chaîne à plusieurs peuples, ça, c'est l'idée quand même géniale de faire une télévision à plusieurs peuples, alors que la télévision est très liée à l'identité nationale. À l'époque, c'était la voix de la France. Et Arte, c'était une télévision Allemagne, France, est ouverte à l'Europe. Donc on en a profité pour tourner avec des réalisateurs étrangers et faire des séries à l'étranger, comme 2000 vues par, comme Regard Noir, comme Ainsi proche Orient. Et ça aussi, ça a été une aventure extraordinaire, quoi. Et là encore, avec des budgets très limités.
Nous allons écouter une musique qu'on peut entendre dans ce film magnifique qui s'intitule « En attendant le bonheur » de Abderrahman Sissako, un film, encore une fois, que vous avez produit, Pierre Chevalier. Vous êtes l'une des personnes qui avait fait le plus pour la reconnaissance du cinéma français, le plus haut, le plus éclatant, le plus émouvant, le plus bouleversant. Et pourtant, vous ne vous mettez jamais en lumière, Pierre Chevalier. Et pourtant aussi, votre itinéraire est fait de sortes de cassures. C'est-à-dire que quand tout va bien pour vous, ben vous partez. Et c'est ainsi que, quand tout allait très très bien à Arte, vous décidez de partir pour la Villa Médicis. Et là, catastrophe, ça se passe pas très bien.
Oui, ma vie est une espèce de ligne brisée, avec des coupures complètement irrationnelles.
Pas de plan de carrière.
Ah non, non. Non, le hasard, les rencontres, surtout les gens. C'est ça, je trouve que les gens, c'est vraiment ce qui vaut la peine d'être vécu, quoi, les relations avec les gens. Et c'est vrai qu'au bout de 12 ans, j'étais arrivé au bout du bout du bout. Et à la fin, bon, j'ai mené quelques batailles, y compris au sein d'Arte, mais qui ont toujours été fraternelles, parce que il y a toujours eu comme ça des accords. Mais c'est vrai qu'à la fin, je poussais peut-être le bouchon un peu long. J'avais présenté Les Amants Réguliers comme un prime time en couleur sur mes 68.
Donc de Philippe Garrel.
Et le film de Philippe Garrel. Il y avait eu l'amant de Lady Chatterley qui avait aussi un peu secoué les partenaires. Donc voilà, j'étais arrivé au bout et j'avais envie de partir. Et en effet, Richard Peduzzi, que j'avais connu très jeune, m'a proposé de venir à la Villa Médicis comme conseiller culturel, comme conseiller artistique. Donc je me suis dit, formidable, je me tire, je quitte tout, un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle fonction, c'est merveille. Et puis, la Villa Médicis est un endroit assez extraordinaire, mais pour moi un peu dangereux, et qui l'a été d'ailleurs pour pas mal de gens. C'est tellement beau que vous êtes plaqué au mur. Vous vous dites, mais tant de beauté, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc y passer un week-end, c'est merveilleux, parce que le jardin, la vue sur Rome, les ateliers. Mais alors y travailler, c'est autre chose. Et c'est vrai que là, j'ai chuté au bout de 2 mois. Ça a été très vite fait. J'ai travaillé avec Richard sur une programmation à 3 ans. J'ai rencontré les pensionnaires. J'ai eu des contacts excellents. Je me suis aussi, j'ai eu quelques, voilà, désaccords avec le directeur, mais quand même pas essentiel, pas au point de tomber. Mais je suis vraiment tombé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, en hôpital psychiatrique. Et je suis revenu quand même comme un soldat. On a installé une salle de cinéma, fait une programmation de cinéma, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était pas mon histoire, quoi, de mener cette vie un peu néo-diplomatique, faite de beaucoup de dîners, de réceptions, d'accueil, très peu de budget, voilà. Et donc, je suis rentré à Paris et là, il y avait plus rien. Il y avait absolument plus rien. Donc, mais j'ai beaucoup appris là aussi. On apprend en chutant parce qu'on apprend à se relever et après, c'est moins dur, quoi.
Et récemment, vous avez vécu une expérience à la fois physique, mais peut-être aussi philosophique, d'être obligé de ne pas bouger.
Exactement, oui, tout à fait. Après la Villa Médicis, je suis allé dans la production.
Et puis vous êtes venu travailler à France Culture,
mais
pour
oui.
notre grand bonheur,
voilà.
pour vous occuper de cette... des documentaires et
voilà.
de cette émission sur les docs.
Ah oui, ça j'ai beaucoup aimé cette maison, j'ai beaucoup aimé France Culture, j'ai beaucoup appris. Oui, je suis arrivé, je crois, fin 2005. À vrai dire, j'avais jamais pensé à travailler à France Culture. C'est David Kessler, qui était votre successeur, qui m'a dit un jour, on s'est rencontré à une projection, et j'avais vraiment pas grand-chose. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux venir travailler à mi-temps auprès de moi à France Culture? J'ai dit, oui, bien sûr, ça me plairait beaucoup. Et là, il m'a observé pendant quelques mois, et puis fin 2005, il m'a dit, écoute, tu vas travailler pour France Culture, mais pas pour faire de la fiction, parce que la fiction, d'abord, ça marche très bien, et pour travailler sur le documentaire. Alors là, je suis tombé un peu des nues, parce que le documentaire, je connaissais peu, ça me fascinait, j'admirais beaucoup le travail qu'avait fait Thierry Garrel à Arte, le travail de Catherine Lamour à Canal+, mais pour moi, c'était extraordinaire. Et puis, je me suis lancé, et j'ai découvert tout un univers. À France Culture, j'ai découvert vraiment des gens d'un niveau, d'une qualité d'échange, mais vraiment extraordinaire. Donc j'ai travaillé avec les producteurs qui étaient là. Et puis j'ai fait venir de jeunes producteurs qui tentaient de faire de la radio. Et ça a été, je suis resté presque 3 ans, ça a été absolument passionnant. Ça a été beaucoup de travail, parce que c'était un rendez-vous quotidien, d'une heure, d'émissions documentaires, donc montées, réalisées, voilà, selon des cycles thématiques ou selon des collections. On a travaillé, on était peut-être une centaine, quoi, à travailler sur cette mission sur les docs chaque jour.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ben écoutez, aujourd'hui, je le dis, j'ose pas le dire parce que ça fait peur à beaucoup de gens, je suis à la retraite. Et pour moi, j'avoue, je le dis, très modo voce, c'est un rêve. Tout le monde m'avait dit, mais c'est terrible, la retraite. Et quand je le dis, même encore maintenant, les gens font une tête en se disant, mon Dieu, pourvu que je n'y arrive pas, ou pourvu que je continue à travailler le plus de temps possible. Moi, pas du tout. Je ne fais rien. Je perds mon temps. Chaque matin, j'improvise ma journée. Mais c'est un rêve, c'est inouï, quoi. Voilà, je suis à la retraite, je ne sais pas ce que je vais faire, je n'y pense pas, je n'ai pas d'avenir, je suis dans le devenir.
Merci beaucoup Pierre Chevalier pour ce que vous êtes.
You look at me now with those hollow eyes, sockets and smile, and it seems all a lie, they've told me so far. And you show me that life isn't all about extending your time. No, it's the perfect time for a bottle of wine. And why do I still care? Memory. death suits you, dear sir, like a beautiful coat, but then without all the fur. I wonder would it fit me, what do you think I'd prefer? You know, some people draw to not exist. They put a gun to the heart or a knife through the wrist. We ought to think they aren't smart. It could be something I missed. Right then, she kisses my skin. I don't know.
Et c'est avec Tamino et son titre Cigare que nous nous quittons ce soir, non sans avoir remercié à la technique Johanna Gabric, Antoine Joubert, Élodie Royer et Anne-Sophie Dazard qui m'ont aidé à préparer cette émission, avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert. Et après le journal d'information, vous retrouverez l'ami Didier Varro pour ça, qui devient évidemment chaque vendredi soir notre foule sentimentale.